Bien, bonjour. Que l'image est là, donc je vais vous montrer tout de suite le plan que j'ai adopté. Donc, une conférence en deux parties, comme on vient de vous le dire, sur le protestantisme. Deux parties, ben, d'une part parce qu'on ne peut pas tout dire en une fois, c'est ce qu'on m'a demandé, dépassait largement ce qui était possible de faire en une séance, mais ça correspond aussi à une vision de l'origine du protestantisme que je développerai, c'est-à-dire l'idée que le protestantisme naît d'un besoin de réforme de l'Église et non pas de rupture avec l'Église romaine. Et donc ce besoin de réforme, c'est ce que je vais exposer aujourd'hui. Et le 8 janvier, si c'est bien le 8, en tout cas donc début janvier, on verra comment cette tentative de réforme finit par donner naissance à une religion, ou en tout cas une confession chrétienne, entièrement séparée de l'Église catholique romaine et qui a bien conscience de sa séparation. Alors qu'au XVIe siècle, la conscience d'une séparation totale est encore assez balbutiante. Donc il y a vraiment deux étapes. On pourrait parler de réforme à proprement parler pour le XVIe siècle et puis de protestantisme pour la suite. Alors donc aujourd'hui, les origines et le développement de la réforme. Et donc, on va commencer par voir quelle est la situation de la chrétienté au début du XVIe siècle. Donc, XVIe siècle, si on se situe en 1500, on a une carte de l'Europe assez complexe, comme on le voit, avec quelques grands États, la France, l'Espagne. En réalité, il y a plusieurs royaumes en Espagne, mais avec le même souverain. Donc l'Angleterre, bon, l'Empire ottoman qui est nettement plus vaste, et puis l'Italie très divisée, le Saint-Empire romain germanique qui comprend, donc comme on le voit, une mosaïque d'États dans tout le centre de l'Europe. Dans toute cette Europe chrétienne, ou en tout cas de la chrétienté occidentale, ce qui exclut l'Empire ottoman, et puis tout ce qui est très à l'est, hein, Lituanie, Livonie, etc. Dans toute cette partie de la chrétienté occidentale, on a, d'après l'historiographie classique, un christianisme en crise au début du XVIe siècle. Alors, en quoi constitue cette crise ? Est-elle réelle? Est-elle en tout cas aussi forte que ce qu'on a bien voulu dire? Le problème essentiel pour le clergé, c'est la distinction entre l'office et le bénéfice. Toute charge ecclésiastique comprend un office, donc c'est la charge qu'il faut remplir. Pour un curé, le fait de s'occuper de ses ouailles, de dire la messe, de célébrer les sacrements, etc. Donc l'office et le bénéfice qui est le revenu lié à cette charge, ce qui est donné au curé, si on prend toujours le cas du curé, pour survivre, puis quelquefois un peu mieux que survivre, en tout cas ce qui correspond au revenu de son travail. Or, les deux sont souvent dissociés. Vers 1500 et même déjà bien avant. Et dans ce cas, le bénéficié, donc celui qui touche le revenu, peut ne pas exercer directement sa charge, mais la confier à quelqu'un d'autre qu'on va appeler un vicaire. Vicaire qui est souvent assez mal payé, c'est ce vicaire qui touche, vicaire du curé, qui touche ce qu'on appelle la portion congrue. Oui, l'expression est devenue courante pour parler d'un revenu plutôt faible. Pour que cela fonctionne, pour que les bénéficiaires puissent laisser leur charge à des vicaires, il faut évidemment qu'il y ait de nombreux prêtres disponibles, de nombreux vicaires potentiels. Il faut aussi que les bénéficiaires éprouvent le besoin de délaisser leurs tâches, et on va voir pourquoi. Il se trouve qu'au XVe, au XVIe siècle, a lieu une extension de l'économie monétaire. Ce qui est la monnaie, et tout ce qu'on peut faire avec la monnaie, et notamment le commerce, devient un élément de richesse au même titre que la terre. D'où une crise des revenus ecclésiastiques qui, eux, proviennent essentiellement de la terre. De plus, on a au XVe siècle, et depuis le XIVe d'ailleurs, XIVe, XVe siècle, de nombreux troubles, des guerres qui ravagent les terres, qui ravagent les récoltes, et donc des bénéfices en forte baisse. Et donc pour survivre, les bénéficiaires éprouvent le besoin de multiplier les bénéfices. Or, ils peuvent le faire parce qu'il y a une prolifération du clergé au même moment, prolifération du clergé et donc trop de prêtres, on pourrait dire un chômage des prêtres. Bon, il y a des interférences apparemment. Donc une prolifération de prêtres. Bon, voilà, c'est mieux. Donc, prolifération de prêtres qui s'explique par une hausse démographique forte qui fait que la prêtrise devient socialement plus ouverte également. Et donc, de nombreuses catégories sociales ambitionnent d'accéder à la prêtrise. Donc cela, ce phénomène provoque donc un cumul des bénéfices. La même personne a de très nombreux bénéfices pour avoir un revenu convenable. Par conséquent, un absentéisme croissant de ses bénéficiaires. On a quelques chiffres. Dans le doyenné de Bruges, 77, donc en 1455, donc milieu du XVe siècle, 77% des curés sont absents. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne dans la paroisse, là encore, il y a un vicaire. Mais le titulaire, le bénéficiaire, n'est pas là. Dans le diocèse de Sens, à la fin du XVe siècle, 50 à 60% des curés sont absents. 40% dans le diocèse de Liège, je pourrais donner d'autres chiffres, hein, c'est toujours les mêmes ordres de grandeur. Or, ces vicaires sont souvent moins instruits, ils n'ont pas ou peu de formation théologique, pas beaucoup non plus de sens pastoral. Donc, un premier élément de crise. On peut aussi parler de crise morale, avec de nombreux cas de conduite douteuse de la part du clergé, c'est ce qui est très connu, hein, de clergé qui fréquente les tavernes, qui joue, qui danse, qui porte des armes, qui fréquente des prostituées, etc. Le concubinage est important. On a quelques chiffres, là aussi, pour les prêtres des Pays-Bas. Au début du XVIe siècle, ça toucherait un quart des prêtres, un tiers des prêtres de Rhénanie, au milieu du XVIe siècle. Seulement, ce phénomène qui a été beaucoup dénoncé ne choque pas particulièrement les populations. Après tout, un prêtre qui est présent, même s'il fréquente d'un peu trop près une jeune fille, peut paraître sympathique, et s'il est à la taverne avec ses fidèles, ça ne gêne pas forcément. Le scandale, c'est le prêtre qui ne va pas célébrer les sacrements, qui ne dira pas sa messe, ou qui le dira mal, ou, autre scandale, l'ostentation de la concubine, il en est une, d'accord, mais peut-être pas la mettre trop en valeur, ou alors la transmission de son bénéfice au fils aîné. Donc là, c'est source de scandale. Quand on n'est pas dans ce cas-là, la situation est relativement admise. C'est plutôt le clergé rigoriste de la deuxième moitié du XVIe siècle ou du XVIIe siècle qui va dénoncer cette situation a posteriori. Le clergé régulier, lui, s'est éloigné de l'esprit de la règle. Le clergé régulier, donc, les moines, pour dire vite, on sait que la clôture est souvent levée, que la vie commune n'est pas toujours respectée, que les moines délaissent les offices, que le niveau des études a également baissé. mais en même temps, il faut relativiser les choses. On peut dire que la situation était pire au XIVe, XVe siècle, et que depuis, il y a eu un redressement avec, à la fin du Moyen-Âge, ce qu'on appelle le mouvement de l'observance, qui touche à peu près tous les ordres. Tous les ordres religieux, aussi bien les bénédictins que les chanoines réguliers, les ermites de Saint-Augustin, c'est l'ordre auquel a appartenu Luther, les franciscains, les dominicains, etc. Et on a même une hausse du nombre des religieux au XVe siècle et au début du XVIe siècle, des religieux appartenant aux ordres mendiants, donc notamment franciscains et dominicains. Donc une crise, mais peut-être pas aussi grave qu'elle ne l'était autour de 1400, par exemple, et sans doute pas aussi grave que ce qu'on a dénoncé par après. Ce qu'ont dénoncé d'abord les acteurs de l'histoire que je raconte, les protestants, pour justifier la séparation, vont appuyer sur les éléments de crise, et l'historiographie catholique va faire de même en expliquant qu'il y avait une crise très importante, que c'est pour cela qu'il y a eu un mouvement de réforme, mais que la crise étant résolue grâce au Concile de Trente, les protestants n'ont plus à rester éloignés de l'Église romaine et doivent au contraire la rejoindre. Donc, il faut bien comprendre que ces éléments de crise existaient, mais sans doute pas aussi forts que ce qu'on a dit. Et si on a insisté là-dessus, c'est souvent pour des raisons polémiques. Et de fait, malgré cette crise relative, le peuple chrétien de l'époque ne montre pas de désaffection à l'égard de la religion traditionnelle. On a de très nombreuses constructions d'églises et de chapelles, les confréries se multiplient, les pèlerinages ont un immense succès. On n'a jamais eu autant de personnes partant en pèlerinage qu'au début du XVIe siècle. Et on a un sommet qui sera dépassé encore au XVIIe, mais qui est bien supérieur à tout ce qu'on a pu avoir au Moyen-Âge. Le livre religieux, l'imprimerie apparaît au milieu du XVe siècle, et le livre religieux connaît une grande diffusion. Plus de 50% des livres imprimés à l'époque sont des livres religieux. Alors, ça concerne une élite, lire des livres, évidemment, mais on voit que cette élite est friande de livres religieux. On publie de nombreuses Bibles en latin ou même traduites en entier ou souvent partiellement en langue vernaculaire. On publie des livres de prière, des vies de saints. Donc, pas de désaffection envers la religion, mais une foi qui est marquée par l'angoisse du salut. Ce qui s'explique sans doute par l'importance des guerres, des épidémies, par la menace turque. On est aussi au moment de la grande expansion de cet empire ottoman, là que vous voyez à l'est, à droite de la carte, et qui s'étend de plus en plus vers l'ouest, qui va menacer les frontières du Saint-Empire, d'abord la Hongrie, qui l'occupe en partie, qui va progresser vers Vienne, qui progresse également en Méditerranée. Donc, ces menaces expliquent sans doute l'angoisse du salut. Ça se manifeste par la croyance en la réalité des sorciers et des sorcières, par les danses macabres, du point de vue iconographique, qui se multiplient à cette époque-là, par la croyance très répandue en la proximité de la fin du monde et donc à la venue de l'Antéchrist. Bon, fin du monde, c'est dans quelques jours, je crois, il me semble. Pour répondre à cette angoisse, se diffuse ce que certains historiens ont pu appeler une piété de prestation, des prestations qu'on fait pour Dieu. On va rechercher les pratiques religieuses qui fléchissent la colère de Dieu. Il s'agit de gagner son salut par des prières, par des dons, par des gestes pieux, mais dans une sorte de donnant-donnant. On fait des gestes pieux, on fait des choses qui plaisent à Dieu, et en échange, Dieu nous assurera le salut. Le problème, c'est que cette piété risque d'être fragile parce qu'on ne connaît pas le prix du salut. Je dis donnant-donnant, on fait des gestes pieux, Dieu nous récompense, enfin nous assure le salut à la place, mais on ne sait pas ce qu'il exige. Est-ce que ce que l'on donne suffit? Et plus on est scrupuleux, moins on est sûr, évidemment, de son salut. Donc, crise, sans doute, mais cela ne signifie pas, dépérissement de la foi. Cela, je crois que cette crise se manifeste plutôt par un décalage entre des attentes de plus en plus fortes du peuple chrétien et l'incapacité de l'Église à y répondre. Mais le pire est sans doute passé et on cherche à présent à réformer l'Église. Donc, un deuxième point, tentative de réforme de l'Église. Alors, parmi ces tentatives très nombreuses, j'en ai sélectionné un certain nombre. Une des tentatives peut-être les plus connues, c'est ce que cherchent à faire les humanistes. Je suis allé trop vite. Bon. Les humanistes. Donc, des intellectuels, pour dire vite, en rupture avec la théologie traditionnelle de la fin du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la théologie scolastique, et plus largement en rupture avec les formes traditionnelles de pensée. Il s'agit, pour les humanistes, de revenir aux origines antiques, dans le domaine profane, à la Bible elle-même et à l'Église primitive, dans le domaine religieux. Et pour cela, retrouver ce qu'on considère comme les vrais textes, les textes d'origine, et donc on va chercher à éditer Platon, Aristote, mais aussi la Bible, dans la version la plus proche de la version des origines. Alors, ces humanistes sont très divers. Point commun entre eux, sans doute, c'est la croyance en une éminente dignité de l'homme. C'est ce qui a donné ce nom à ce mouvement d'humanisme, les très grandes capacités de l'homme, l'homme qui est à l'image de Dieu, qui doit tendre vers le divin, et qui donc on a donc une conception particulièrement optimiste de l'homme, conception optimiste qui s'intègre au christianisme. Les humanistes pensent que l'homme comprend et réalise le dessein divin. D'où leur intérêt pour l'éducation. C'est en formant les jeunes chrétiens, enfin les jeunes, que l'on obtiendra des chrétiens parfaits. C'est ce que dit Erasme, par exemple. Il dit « l'homme ne naît pas homme, il le devient ». Il faut éduquer les hommes pour qu'ils soient de parfaits chrétiens. Et la crise de l'Église se résoudra d'elle-même à ce moment-là. Simplement, ce christianisme qui va être réformé n'est pas le christianisme de la fin du Moyen-Âge. Pour les humanistes, c'est un christianisme qui se résume à ce qu'Erasme appelle la philosophie du Christ, la philosophia Christi. Un christianisme pour qui la théologie et les spéculations intellectuelles sont relativement secondaires. Erasme, toujours lui, dit qu'il faut plutôt moins savoir et aimer davantage. Donc un christianisme qui sera contre les rites de l'Église, ou qui en tout cas relativisera les rites de l'Église, qui insistera beaucoup plus sur le comportement moral, ainsi que sur la prière et la mystique, que sur la spéculation théologique, même si les humanistes sont de très grands intellectuels et sont capables de spéculations intellectuelles très poussées. Mais pour eux, ce n'est pas l'essentiel, au moins dans le domaine du christianisme. Ces humanistes pensent réaliser leur dessein en retrouvant l'Écriture, la Bible, telle qu'elle existait à l'origine. Et donc, ils vont développer la philologie, c'est-à-dire la critique savante des textes, pour essayer de dégager le texte biblique tel qu'il était connu à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, de toute la gang des interprétations, de toutes les interpolations. Il faut imaginer ce texte très ancien qui a été recopié sans arrêt par des moines, essentiellement au Moyen-Âge. Qui dit copie dit des erreurs qui se produisent à un moment ou à un autre. Donc il faut être capable de repérer toutes ces erreurs pour revenir au texte d'origine, ce qui est un petit peu une illusion, mais on le sait maintenant, les humanistes en étaient moins conscients. Cela les oblige, en tout cas, à rechercher le maximum de manuscrits possibles, à s'instruire en grec, en hébreu, en autre langue, en langue sémitique, langue arabe également, pour mieux comprendre l'esprit de l'hébreu en particulier, et donc mieux comprendre la Bible. Ces humanistes donc se constituent ainsi en intellectuels qui font pression auprès des responsables de l'Église pour que l'Église évolue dans ce sens, une Église plus biblique et une Église qui insisterait davantage sur le comportement des chrétiens. Mais ce n'est pas la seule réponse possible à la crise. On a d'autres réponses possibles que je vais évoquer très rapidement. D'abord, une réponse qui vient d'en haut, réponse magistérielle, c'est une réponse venant de la papauté. C'est le concile, le cinquième concile du Latran, réuni par Jules II, que vous voyez ici, qui se tient de 1512 à 1517. Un concile qui est vraiment réuni parce qu'on a conscience des problèmes de l'Église. Le discours d'ouverture qui est prononcé par un religieux, Gilles de Viterbe, est un discours très critique envers l'Église de son époque. Il présente toutes les calamités qui s'abattent sur la chrétienté en les présentant comme une conséquence du mauvais comportement de l'Église. Ces calamités s'expliquent par les maux de l'Église et notamment par les actes politiques des papes. N'hésite pas à le dire, alors Jules II est là. Donc il y a une véritable autocritique de la part de l'Église de cette période. Dire qu'on est encore dans la période de la papauté de la Renaissance qui est connue de manière plutôt défavorable donc par les mœurs des papes et par les ambitions politiques également de ces papes. Mais on voit qu'ils en sont en même temps conscients. Et donc le Concile va proposer des réformes, certaines assez ambitieuses. Le problème, c'est que les décrets qu'on publie à la suite du Concile sont beaucoup plus timides. On veut bien réformer le système de taxation à la curie romaine. On a des recommandations pour choisir les évêques, des recommandations, là encore, pour l'instruction religieuse, la prédication. On s'occupe de la censure des ouvrages religieux, mais le problème essentiel, l'accumulation des bénéfices, on n'y touche pas. On ne touche pas non plus à la question de la résidence des prêtres ou des évêques, enfin, ou plutôt la question de la non-résidence, de l'absentéisme des prêtres et des évêques, sans doute parce que là, il y a des enjeux trop importants. Et pire que cela, non seulement les décrets sont relativement timides par rapport aux enjeux, mais il n'y a pas de volonté réelle d'application des décrets. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux vont rester lettre morte. Seul effet vraiment visible de ce concile, c'est que le pape a retrouvé son autorité. Il était très contesté à la fin du XVe siècle. Là, il a réussi à mettre en place un concile. Il y a quand même des décrets de réforme qui ont été pris, même si on les trouve timides. Mais il a retrouvé son autorité. Et on peut avoir l'impression que le pape, alors c'est plus Jules II à la fin du concile, c'est Léon X, le pape qui est entouré alors d'une cour fastueuse, entouré d'artistes renommés, on a l'impression que ce pape a retrouvé tout son pouvoir spirituel. Mais il a peut-être retrouvé son pouvoir spirituel, mais on est passé à côté de la réforme de l'Église. Alors, on a d'autres réformes à un échelon moindre. On peut prendre l'exemple de l'Espagne. on a en Espagne un désir de réforme qui est appuyé par les autorités, par le roi, par des évêques zélés, par des ordres religieux, et cela dès le XIVe siècle. Et tout ce mouvement de réforme aboutit avec les initiatives du cardinal Cisneros. Vous voyez ici, donc, il est né en 1436, il meurt en 1417, donc tout à fait au début du XVIe siècle. C'est un franciscain observant, donc de ce mouvement qui a voulu revenir un peu à l'esprit de la règle de saint François, donc franciscain rigoriste, qui est provincial de l'ordre des franciscains en Espagne, qui est archevêque de Tolède, donc c'est ce qu'il y a de plus haut à ce moment-là en Espagne. Il est grand, en 1507, il est grand inquisiteur du royaume de Castille. Il est même en 1516 régent du royaume d'Aragon. Il est conseiller de la reine. Donc c'est quelqu'un de considérable qui domine vraiment toute la vie espagnole dans les années 1500. Et ce personnage va décider d'appuyer la réforme de l'Église en Espagne. Il appuie la réforme des réguliers qui vont avoir un très haut niveau intellectuel. Et de fait, la plupart des théologiens du XVIe siècle sont espagnols. Les plus grands missionnaires du XVIe siècle sont espagnols. Ce n'est pas pour rien, c'est en grande partie le fruit de cette réforme. Cisneros veille également à la formation du clergé. Il crée une université à Alcalá en 1498, université qui n'est pas comme les universités à l'ancienne, où on enseigne la théologie scolastique. Là, c'est une université ouverte aux nouveaux courants intellectuels de l'époque et qui entre de ce fait en concurrence avec les vieilles universités de Salamanque, par exemple, ou le collège de Valladolid, ce qui crée une émulation intellectuelle et favorise les recherches en philologie. L'aboutissement, c'est un texte très célèbre à l'époque, ce qu'on appelle la Bible polyglotte d'Alcalá, qui présente, qui est publié en 1522 à l'université d'Alcalá, qui présente différentes versions de la Bible en latin, en grec, en hébreu et d'autres langues, enfin mises côte à côte, ce qui permet donc des recherches très poussées. La littérature religieuse va se diffuser également en Espagne, et on voit donc qu'on a une réforme de l'Église en bonne voie en Espagne, mais une réforme qui s'ancre malgré tout dans la tradition spirituelle médiévale, dans le messianisme, c'est-à-dire l'attente du Messie, l'attente des derniers jours. J'en avais parlé en introduction, c'est très fort en Espagne. Et cela explique un très moins heureux, c'est une litote encore, de l'Espagne de l'époque. Comme on est au dernier temps, qu'on pense être au dernier temps, on veut accélérer cette période et donc aboutir à ce que tous les habitants d'Espagne deviennent chrétiennes, d'où la lutte et l'expulsion des juifs, les conversions forcées des musulmans, et puis finalement l'expulsion de ceux dont on constate qu'ils ne sont finalement pas bien convertis, des baptêmes collectifs, on transforme les mosquées en églises, etc. Donc un esprit très, je dirais presque intégriste aujourd'hui, ce n'est pas le mot, parce que l'état d'esprit n'est pas le même. Mais on voit d'un christianisme très peu tolérant. Il s'agit vraiment de faire de l'Espagne une Espagne parfaitement chrétienne dans la perspective des derniers temps. Si on prend le cas des réformes françaises, on voit que tout ne va pas si mal. Il y a un certain nombre d'évêques qui en appellent à la responsabilité du clergé, qui éditent des traités pour cela. Traité de réforme, le plus connu, c'est un traité de Gerson qui est réédité très souvent. Certains évêques entreprennent des réformes dans leur diocèse, donc visitent leur paroisse, par exemple, pour vérifier que les curés font bien leur travail. Et l'exemple le plus célèbre, c'est celui du diocèse de Moux, dirigé par cet évêque, Guillaume Brissonnet, qui est nommé à Moux en 1516. Il décide de résider dans son diocèse, ce qui est déjà en soi une décision réformatrice, résider dans son diocèse, de le visiter régulièrement, de réformer les monastères, de surveiller la conduite des fidèles, mais aussi des clercs. Il est très attentif à leur enseignement, leur formation d'abord, leur enseignement. Et pour mieux assurer la prédication, il fait appel à tout un groupe d'humanistes français, avec pour consigne que ces humanistes doivent prêcher non pas la morale, non pas des dogmes, mais prêcher l'Évangile, partir des textes de l'Évangile et expliquer l'Évangile, vraiment revenir au texte. Voilà. Donc, on a comme ça des initiatives. Alors, celle de la papauté échoue en grande partie. Celle d'un pays, l'Espagne, est plus discutable. Enfin, il y a effectivement quelque chose qui se passe qui peut être discutable. On a des réformes à l'échelle de diocèse, comme en France. Et puis, on a des réformes presque, on pourrait dire individuel, avec la naissance de nouveaux mouvements religieux. Je donnerai un seul exemple pour aller dire dans la réforme protestante ensuite. Seul exemple, en 1497 est fondé l'Oratoire de l'amour divin, fondé à Gênes. Il s'agit d'une sorte quelque chose qui est à mi-chemin entre une confrérie et un ordre religieux, fondé, ce qui est intéressant, à la fois par un homme marié, laïque, Ettore Bernazza, et une femme, supérieure d'hôpital, Catherine Fieschi-Adorno. Donc, une réforme qui ne vient pas des religieux eux-mêmes, mais de milieux laïcs, et hommes et femmes ensemble. Là encore, est assez intéressant. Oratoire de l'amour divin, la spiritualité, le titre le dit bien, enraciner l'amour divin dans les cœurs des hommes, mais cela signifie concrètement multiplier les actes de piété, donc actes spirituels comme des prières nombreuses, mais la confession, la communion fréquente, mais aussi se mettre au service des autres et notamment des plus pauvres. Cette société Oratoire de l'amour divin réunit des prêtres et des laïcs. Elle va essaimer assez rapidement dans toute l'Italie. Et un de ses membres, Gaëtan de Thienne, que vous voyez ici, qui lui est un prêtre, va fonder dans le même esprit une société de prêtres, les Théatins, en 1523. Société de prêtres qui se donne pour ambition de réformer les prêtres pour réformer le peuple chrétien. Et les Théatins, nombreux surtout en Italie, mais qu'on va retrouver dans d'autres pays, on va en trouver en France et ailleurs, vont être une véritable pépinière des agents de la réforme catholique. On a donc, on le voit bien, des initiatives nombreuses. Je vais parler tout de suite de celle de Luther. On voit que ce n'est pas une initiative complètement isolée. Ça se situe dans tout un ensemble de volontés de réforme de cette Église du début du XVIe siècle. Alors, la réforme de Luther. Il faut dire un mot d'abord du personnage lui-même, évidemment. Martin Luther est né en Saxe, à Eisleben, né en Saxe en 1483, d'une famille, on pourrait dire de classe moyenne, pour parler le langage d'aujourd'hui. Son père a été mineur et puis a une petite entreprise d'exploitation de mines en Saxe. Donc il fait, Martin Luther fait des études donc à Magdebourg, à Eisenach, à l'université d'Erfurt, donc il reste dans sa région. Il devient bachelier en 1502, maître en philosophie en 1505. Il entre ensuite dans un ordre religieux chez les Augustins d'Erfurt, à la suite d'un vœu à Sainte-Anne. Il échappe de peu à un orage, il y a l'éclair qui tombe à côté de lui, et il aurait promis, c'est ce qu'il raconte par la suite, à ce moment-là, promis à Sainte-Anne que s'il leur échappait, il entrerait dans les ordres. Il survit et il entre effectivement chez les Augustins. L'anecdote est intéressante parce que ça montre que Luther est vraiment tout à fait dans la spiritualité médiévale à ce moment-là. Et il est un moine tout à fait exemplaire. Il le dit lui-même, mais on a des témoignages. Et puis, son parcours dans la vie monastique le montre bien. Ça a été un très bon moine. Luther va dire lui-même que s'il avait été moine plus longtemps, je le cite, « je me serais tué à force de veille, de prière, de lecture et d'autres travaux ». C'est parce que Luther est vraiment dans la logique de la piété de prestation. Il faut multiplier les actes pieux pour gagner le salut. Et comme c'est quelqu'un de très scrupuleux, il est persuadé que le salut ça s'achète très cher. Et donc il va faire tout ce qu'il peut pour cela. Du coup, il a une certaine réussite comme moine. Il devient prêtre en 1507. En 1510-1511, on l'envoie à Rome pour une querelle interne à l'ordre des Augustins. Et c'est lui qui est chargé de régler l'affaire auprès de la curie romaine. Il est envoyé ensuite en 1511 au couvent de Wittenberg, où il devient docteur en théologie, prédicateur, sous-prieur et professeur à la toute nouvelle université de Wittenberg, université qui a été ouverte par le duc de Saxe pour un abus de prestige, en fait, et que ce duché est lui aussi sa grande université. Le grand problème de Luther, problème spirituel, on l'a compris, c'est le salut. Et c'est pour ça qu'il multiplie les veilles. C'est le salut, et je ne dirais pas le salut en général, mais son salut à lui. Comment lui va-t-il pouvoir se sauver? Or, il n'a pas de réponse dans la théologie qu'il a étudiée. Hein, théologie qu'on appelle, d'un point de vue technique, la théologie nominaliste, qui aboutit à deux conclusions contradictoires. Première conclusion de cette théologie qu'a parfaitement assimilée Luther, c'est que l'homme peut agir avec rectitude, grâce à sa raison. Donc, certaine confiance, un certain optimisme dans l'homme, hein, qui peut agir de manière juste. Mais ce n'est qu'une des deux conclusions. La deuxième conclusion va dire que Dieu est insondable. Dieu est au-delà de toute connaissance. Et donc, on ne peut pas savoir ce qu'il va faire. On peut savoir ce qu'il a fait, parce que la Bible nous renseigne. Au moins, tout ce qui est dans la Bible nous permet de savoir ce que Dieu a fait. Mais que va-t-il faire? On n'en sait rien. Et donc, on ne peut pas savoir s'il acceptera tous ces actes que l'on accomplit grâce à sa raison, avec justice. Autrement dit, on est capable d'agir justement, mais on ne peut pas savoir si Dieu agréera tous ces actes. Donc, conclusion qui peut être tout à fait désespérante. On sait qu'on peut faire des œuvres bonnes, mais on n'a aucune certitude que ces œuvres bonnes participent au salut. Alors, pour quelqu'un qui est angoissé, pour la majorité des gens, ça ne pose pas de problème, mais pour quelqu'un qui est angoissé par ce salut, on a là un problème très important. Et Luther, peu à peu, et notamment lors de ses enseignements à l'université, arrive à élaborer son propre système théologique. Système pour lequel on peut donner trois éléments caractéristiques, les trois éléments qui me paraissent les plus importants. D'abord, une vision très pessimiste de l'homme, dans la lignée de saint Augustin, et plus exactement, alors saint Augustin que Luther connaît bien, puisqu'il est, il fait partie, je rappelle, de l'ordre des ermites de saint Augustin. Et saint Augustin a été interprété diversement au cours de l'histoire de l'Église, mais Luther se situe dans tout un courant d'interprétation pessimiste qui assimile la tentation, le penchant au mal, au péché. C'est-à-dire que pour lui, il suffit d'être tenté par quelque chose pour pécher, même si on ne passe pas à l'acte. Et il constate, ce qu'on peut faire très facilement, qu'on est constamment, toute sa vie, tenté par quelque chose. Et donc, on est, même si on ne cède jamais à la tentation, on est constamment pécheur. Quoi que l'homme fasse, l'homme est pécheur toute sa vie. Donc, premier point, qu'on pourrait trouver très pessimiste. Deuxième point, c'est l'appel à l'expérience. La théologie de Luther est d'une certaine manière très expérimentale. L'homme expérimente, dans le plus exactement, il sent ce penchant au mal. Il suffit de s'interroger un peu pour sentir ce penchant au mal, et donc le fait d'être pécheur, tel que le comprend Luther. Mais l'homme sent aussi la miséricorde de Dieu. Parce que l'homme chrétien de son époque se tourne vers Dieu, prie Dieu, entend des paroles de consolation, lit ces paroles de consolation dans la Bible, se sent soulagé également en priant Dieu par rapport à ce sentiment de péché. Et donc, il expérimente, d'une certaine manière, la miséricorde de Dieu. Donc, il y a un aspect très subjectif chez Luther. Et puis, troisième point, qui est la clé de tout, c'est la justice de Dieu. Dieu est d'abord juste. C'est Dieu, il est bon, il est sage, enfin, il y a beaucoup d'attributs. L'attribut principal pour Luther, c'est sa justice. Dieu est juste. Mais que veut dire Dieu est juste? Luther l'a d'abord compris, a d'abord compris cette justice comme une justice distributive. C'est-à-dire la justice, celle des tribunaux, qui punit le mal. Et puis, alors là, ce n'est plus les tribunaux, c'est peut-être celle des parents, la justice qui récompense le bien. Donc, justice qui punit le mal, qui récompense le bien. Et avec ce type de justice, on ne peut pas s'en sortir dans le système de Luther, puisque l'homme est pécheur toute sa vie. Il y aura toujours plus de mal que de bien. Donc, si Dieu est juste dans ce sens-là, on est condamné. Pour Luther, la véritable justice, ce n'est pas cela. C'est ce qu'il appelle la justice imputée, c'est-à-dire la justice que Dieu nous donne. Dieu ne punit pas le mal ou récompense le bien, Dieu nous déclare juste. Et quoi qu'on fasse, et on fera toujours le mal d'après lui, d'après Luther, plus ou moins, mais on sera toujours dans le mal, quoi qu'on fasse, Dieu ne nous comptera pas nos mauvaises actions, il ne comptera pas les bonnes non plus d'ailleurs, il nous déclarera juste. Il va nous justifier. Alors que je dis nous, ça va un petit peu trop loin. En fait, il va justifier ceux qui ont la foi en Dieu. C'est ce qu'on va appeler la justification par la foi. Ceux qui ont la foi en Dieu sont déclarés justes. Avec un corollaire qui est plus inquiétant, peut-être, c'est que la foi, c'est pas l'homme qui décide de l'avoir ou pas, c'est Dieu qui la donne. Et donc, Dieu va donner la foi à une partie de l'humanité, plus ou moins importante. Pour Luther, c'est une toute petite partie. Mais à la limite, ça, c'est quelque chose d'un peu secondaire. L'idée principale, donne la foi à un certain nombre d'hommes. Et à partir du moment où ces hommes ont la foi, ils sont déclarés justes. Alors, je ne vous ai pas encore montré Luther. Il faut quand même voir apparaître. Et puis, vous avez sa femme à côté, Catherine de Bora. Alors, ces idées de Luther expliquent son intervention de 1517, qui est traditionnellement considérée comme le début de la Réforme. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Un dominicain prêche des indulgences dans toute l'Allemagne. Des indulgences, c'est-à-dire qu'il demande de l'argent. Argent qui va permettre, par différents biais, enfin, de rembourser un banquier qui a prêté de l'argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. La basilique actuelle est en construction à ce moment-là. Ça coûte très cher, évidemment. Et donc, le produit des indulgences sert à cela. Et si on donne cet argent qui correspond à un don pieux, puisqu'il s'agit de construire l'église du pape, si on donne cet argent, on va gagner, on va aller plus vite en paradis, au paradis. Dieu, donc, nous récompensera de cela. Pour Luther, c'est complètement aberrant, puisque Dieu ne récompense pas le bien. Donc c'est quelque chose qui n'a aucun sens d'un point de vue théologique. Et non seulement ça n'a aucun sens du point de vue théologique, mais en plus, ça apparaît comme de l'exploitation du peuple par le clergé, qui s'enrichit par ce biais. Et cela favorise les superstitions. Le peuple s'imagine qu'il suffit de donner de l'argent pour aller au salut. Pour Luther, c'est de la superstition. C'est qu'on n'a rien compris au christianisme. Donc il va s'opposer à cette campagne d'indulgence de 1517 et pour cela envoyer un texte, ce qu'on appelle les 95 thèses, donc qui sont 95 courtes propositions, ce n'est pas les thèses de doctorat d'aujourd'hui, une thèse, c'est donc une affirmation, donc 95 thèses envoyées au principal ecclésiastique du Saint-Empire, Albert de Brandebourg, donc qui est primat de Germanie, qui est aussi son évêque. Donc il envoie ses thèses en novembre-décembre 1517. Il est possible aussi qu'il les ait affichées sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg. C'est toujours discuté. Je ne suis pas sûr qu'on saura un jour si ça a été bien affiché ou pas, mais bon, peu importe. Donc thèse qui attaque cette doctrine de désindulgence et qui affirme qu'il faut simplement s'en remettre à l'Évangile et qu'appliquer l'Évangile, c'est bien mieux qu'acheter des indulgences. Alors ces thèses se répandent très vite. Albert de Brandebourg, lui, ne répond pas, mais les thèses se répandent très vite en Allemagne, provoquent des controverses. Un certain nombre de théologiens, plusieurs universités condamnent une partie des thèses. Un procès commence à Rome. Une dispute a lieu, débat savant, a lieu en 1519 à Leipzig entre Jean Eck, qui est un des plus grands théologiens de l'époque, et Luther, sur ce thème. Et Jean Eck réussit à bien pointer le problème. Pourquoi est-ce qu'on intente un procès à Luther? Après tout, il a le droit de ne pas être d'accord sur ce point. Mais Jean Eck montre bien que si Luther s'oppose à cela, il s'oppose à l'enseignement du pape. Et donc c'est une rébellion contre la papauté. Et il se rébelle également contre toute la tradition de l'Église. Jean Eck réussit à faire dire à Luther qu'il ne reconnaît pas sur ce point l'autorité du pape, mais pas non plus l'autorité des conciles. Et finalement, la seule autorité qu'il accepte, c'est l'Évangile. Donc, une véritable rupture avec l'enseignement de l'Église. Cela explique que la 41 formules tirées des œuvres de Luther sont condamnées, déclarées hérétiques en 1520 par une bulle du pape, une bulle ex urge domine. Donc ce n'est pas Luther en lui-même qui est déclaré hérétique, c'est 41 propositions tirées de ses œuvres. Mais Luther se rébelle contre cela. C'est quelqu'un qui a sans doute un génie théologique, qui a quand même fondé une nouvelle religion, donc quelqu'un d'importance, mais sans doute aussi de très mauvais caractère, avec des côtés très plaisants, mais aussi bon, quelqu'un de très brusque, et donc qui va brûler la bulle pontificale quand il la reçoit à Wittenberg en décembre 1520. La réponse ne se fait pas attendre, il est excommunié en janvier 1521. Puis il est mis au banc de l'Empire, ce qui veut dire qu'il n'est plus protégé par les lois de l'Empire. Seulement, c'est quand même le théologien vedette de l'université de Wittenberg, et donc son seigneur, le duc de Saxe, le protège, il l'enferme dans un château à côté de Wittenberg, la forteresse de la Wartburg, où là, il est à l'abri, Luther est à l'abri, et il va y passer près de 2 ans, c'est là qu'il va écrire ses œuvres principales, où il expose tout son problème théologique. À partir de mars 1522, Luther revient à Wittenberg, il va se marier avec Catherine von Bora, que vous avez là, qui est elle-même une ancienne religieuse. Il se marie en 1525. C'est vraiment un acte de rupture. Il s'agit de montrer pour lui qu'il ne reconnaît plus la discipline ancienne, que les règles de l'Église, qui lui paraissent de plus non naturelles, n'ont aucune raison d'être, et qu'il faut en revenir à la loi naturelle qui fait que les hommes sont attirés par les femmes et inversement, et donc le mariage est la destinée normale de l'espèce humaine. Et donc, pour que ce soit encore plus marquant, lui, ancien moine, va se marier avec une ancienne religieuse. Bon. Il va Donc pendant encore 25 ans, il meurt en 1546, publié de très nombreux ouvrages, et notamment le Grand et le Petit Catéchisme, 1529, Grand Catéchisme pour les pasteurs, Petit Catéchisme pour le commun des fidèles, donc où il expose de manière simple sa théologie. En 1534, il publie sa première traduction allemande de la Bible, qui va avoir un très fort retentissement, et il publie également de très nombreuses œuvres polémiques, ainsi que de nombreux commentaires de l'Écriture, des sermons, des cantiques. Ce qui est plus intéressant, sans doute, que la vie même de Luther, c'est d'essayer de comprendre pourquoi se diffusent ces idées. C'est tout l'intérêt de Luther, c'est que ce ne sont pas uniquement les idées d'un seul homme, mais c'est des idées qui ont pu se développer dans toute une partie de l'Europe. Or, cette doctrine s'est répandue auprès de différents publics. Tout d'abord, une partie des humanistes. Humanistes qui voulaient aussi une réforme de l'Église, on l'a vu, qui tenaient au retour à la Bible, texte d'origine. Et dans ce sens-là, Luther, qui veut revenir à la Bible, qui s'oppose à la théologie de son époque, semble aller dans le même sens que les humanistes. D'où un rapprochement entre eux. Mais assez vite, une rupture se fait avec une partie de l'humanisme, rupture sur la question de la liberté humaine. Un des points centraux de l'humanisme, on l'a vu, c'est cette confiance en l'homme, cet optimisme en l'homme, qu'on ne retrouve pas chez Luther, justement. Et les humanistes se retrouvent partagés, certains pensant que l'essentiel, c'est le retour à la Bible, le retour à l'Église primitive, vont continuer à suivre Luther, d'autres comme Erasme, qui tiennent avant tout à la liberté de l'homme, tout en restant très critiques envers l'Église, décide de ne pas rompre avec l'Église romaine. Et donc là, on a une rupture très forte dans l'humanisme. Il n'empêche que toute une partie de l'humanisme allemand, notamment, va suivre Luther et donc diffuser ses idées dans les collèges, dans les universités, et fournir tout un soubassement intellectuel aux doctrines luthériennes. Autre cercle qui sont attirés par les idées luthériennes, la petite noblesse allemande. Petite noblesse allemande, c'est une classe sociale en déclin. Elle aussi vit surtout de la terre. Et elle dit que la terre, c'est la valeur qui est dépassée par les revenus monétaires à ce moment-là. Donc une classe sociale en déclin qui souffre de la hausse des prix, qui souffre également d'un point de vue politique, de la montée en puissance des princes, ce qu'on appelle les princes territoriaux, comme le duc de Saxe, ces personnes qui ont des territoires importants. Et cette noblesse est volontiers nationaliste et voit d'abord en Luther un patriote allemand, celui qui a su s'opposer au pape, aux théologiens romains, aux théologiens espagnols également qui viennent à la rescousse. Donc c'est celui qui représente le chrétien allemand en lutte contre la papauté, cette papauté qu'on n'aime pas parce qu'il y a des impôts dus à l'Église et on accuse là aussi la papauté de ruiner l'Allemagne, enfin, le Saint-Empire. Luther s'attaque à la hiérarchie de l'Église également. Pour lui, tous les chrétiens sont égaux devant Dieu. Ces nobles en font une certaine transposition. Il n'y a pas de hiérarchie aussi forte. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un empereur, puis des princes territoriaux, et eux, des petits seigneurs qui n'ont aucun pouvoir. Ils estiment qu'ils ont droit à autant de pouvoir que les grands princes, et notamment dans le domaine religieux. Ainsi, ils sont d'accord avec les idées de Luther. Ils ne voient pas pourquoi ils ne les mettraient pas en application dans leur seigneurie. Et donc, ces nobles vont s'attaquer à l'Église, piller les abbayes, par exemple, se dresser contre les princes qui sont aussi, quelquefois, des seigneurs ecclésiastiques. C'est le cas de l'archevêque de Trèves, qui est en même temps qui dirige la principauté de Trèves. D'où des révoltes nobiliaires, révoltes qui sont écrasées assez rapidement. Les idées de Luther se diffusent également dans les villes. Là encore, c'est surtout les bourgeois qui sont attirés par les idées de Luther. Les bourgeois, c'est des gens qui sont capables de lire les œuvres de Luther. C'est des gens qui voudraient plus d'autorité dans l'Église. C'est un peu la même réflexion que ces nobles. Tout le monde est égal devant Dieu. Donc la bourgeoisie. Alors, bon, le petit peuple, on comprend qu'il n'est pas grand-chose à dire parce qu'ils ne sont pas instruits. On les méprise un peu. Mais ces bourgeois qui finalement font vivre l'économie de l'époque, qui sont instruits, ils ne voient pas pourquoi ils n'auraient pas leur mot à dire dans cette réforme de l'Église. Et donc ils vont eux aussi soutenir Luther, et de fait de nombreuses villes décident de passer à la réforme luthérienne. On a quelques princes également, on a vu le duc de Saxe, qui soutiennent Luther de manière plus ou moins désintéressée. Un certain nombre sont tout à fait convaincus par les idées de Luther. Pour ces princes, c'est également l'occasion de s'emparer des biens quelquefois considérables de l'Église. C'est notamment quelqu'un qui fait une très bonne opération, c'est Albert de Brandebourg, donc primat de Germanie, qui est aussi le grand maître de l'ordre des chevaliers teutoniques, ordre religieux très important en Allemagne, qui a énormément de terres dans le nord-est du Saint-Empire. Il s'empare de tous ses biens, abandonne ses fonctions religieuses, il sécularise l'ordre des chevaliers teutoniques et il transforme tout ça en duché de Prusse. Alors ces princes vont s'opposer de ce fait à l'empereur. L'empereur Charles Quint ne peut pas accepter évidemment une telle dissidence et ça va entraîner, après des tentatives d'union qui échouent, une guerre qui se termine en 1555. En conclusion de cette séance, on verra les répercussions de cette paix de 1555. Et puis enfin, on a un certain nombre de paysans qui sont attirés par les idées de Luther, c'est-à-dire qui transposent au niveau social les idées religieuses de Luther. Là encore, l'égalité de tous devant Dieu doit être une égalité totale. Et on a des idées dans les communautés paysannes, notamment de Suisse, d'Alsace, d'Allemagne du Sud, d'Autriche, pour prendre les frontières actuelles en tout cas, qui développent des idées assez proches d'un certain communisme, mais au sens propre, hein, où il s'agit de mettre les biens en commun et de supprimer toute hiérarchie. C'est-à-dire c'est dans le village le personnage le plus instruit qui va diriger la vie de l'Église, quitte à ce que quelqu'un qui ne sera pas forcément ordonné prêtre, ça peut être une présidence tournante. Donc une réforme radicale de l'Église à un niveau paysan. Que Luther, ça entraîne des réformes, Luther condamne très rapidement ce mouvement en expliquant très clairement que son mouvement, c'est un mouvement de réforme religieuse et que cela n'a rien à voir avec un mouvement social et qu'on ne peut pas transposer du religieux au social. Et donc Luther va soutenir les seigneurs, les princes qui combattent les paysans. On a une révolte, une guerre des paysans en 1525 qui est écrasée par les seigneurs allemands. Et à partir de là, on peut dire qu'il y a vraiment une coupure. Il n'y a plus ensuite d'adhésion populaire au luthéranisme. Quand le luthéranisme va se répandre, c'est parce que les seigneurs ont décidé de le répandre et obligent tous leurs sujets à devenir luthériens. L'adhésion spontanée va disparaître à ce moment-là. Alors, il faut avancer, mais je crois que là, l'essentiel est apparu au niveau des idées. En fait, les réformes sont très diverses. On a déjà vu, dans un deuxième temps, des tentatives de réformes qui, finalement, vont rester au sein de l'Église romaine. On a la réforme de Luther. Puis on a d'autres tentatives de réforme qui vont, elles, comme celle de Luther, se séparer de l'Église romaine. Je vais simplement les mentionner en donnant peut-être juste un ou deux mots pour leurs caractéristiques essentielles. À Zurich se développe une réforme initiée par Ulrich Zwingli. Zwingli est au départ un prêtre qui est presque contemporain de Luther. Il est né en 1484. Prêtre catholique, très marqué par l'humanisme, qui devient curé de Zurich en 1518 et qui, en bon humaniste, va prêcher uniquement sur l'Évangile. Il fait éditer Erasme également, ce qui montre bien son attrait pour l'humanisme. Mais Zwingli se caractérise par quelques traits. Tout d'abord, un rejet très radical des pratiques de l'Église romaine, pratiques qu'il juge superstitieuses. Il refuse le célibat des prêtres, l'abstinence pour le carême, l'usage des cloches, l'usage de l'orgue dans les églises, le culte des images, les processions, les pèlerinages. Tout cela, ce n'est pas dans l'Évangile. Pour cause, ça a été inventé bien après. Ce n'est pas dans l'Évangile. Donc, si on veut revenir à l'Église primitive, il faut le supprimer. Et pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des choses indifférentes. Le peuple a fini par croire que c'était important et que si on n'observait pas cela, on n'était pas bon chrétien. Et donc, pour revenir en arrière, seule solution, c'est de supprimer radicalement tout cela. Et donc, il faut transformer la ville de Zurich en cité chrétienne. À la différence de la plupart des humanistes, Zwingli a une responsabilité ecclésiale. Il est curé d'une ville de Zurich. Il n'y a qu'une paroisse à Zurich, donc c'est lui. C'est une petite ville, hein. Il y a 7000 habitants à l'époque. Donc, il a un véritable pouvoir sur Zurich. Et donc, il va rendre l'instruction religieuse obligatoire avec un manuel qu'il rédige lui-même. Il institue un tribunal du mariage pour bien réglementer et bien suivre la manière dont les chrétiens vont se marier. Il organise l'assistance publique à Zurich et en même temps, il s'occupe de politique étrangère. Il va chercher à lier les cantons protestants contre les cantons catholiques et c'est ce qui entraîne sa perte parce qu'il va mourir en 1631 lors d'une bataille de Cappel, opposant les cités protestantes aux catholiques. Par certains points, la réforme de Zwingli est assez proche de celle de Luther. Il rompt avec la papauté. Il insiste beaucoup sur la justice de Dieu, sur la grâce, dans un sens très proche de celui de Luther, mais pour lui, ce n'est pas l'essentiel. Il garde un certain optimisme pour Zwingli. Malgré tout cela, l'homme peut observer la loi. Si Dieu lui donne la grâce, l'homme peut observer la loi et l'homme peut se sanctifier ici-bas. Donc, différence de point de vue par rapport à Luther. D'autres villes connaissent des réformes également marquées par l'humanisme. Le plus connu, c'est la réforme de Strasbourg, qui est initiée par Martin Bucer. On prononce Bucer à l'époque. Sur la gravure, vous voyez qu'il y a deux C. Aujourd'hui, on n'en met plus qu'un. Réforme. Alors, Bucer, c'est quelqu'un qui a rencontré Luther, qui est marqué par Erasme et qui réforme Strasbourg dans un esprit un peu zwinglien, mais avec, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, la caractéristique principale de Strasbourg, c'est une très grande ouverture d'esprit Bucer tient à l'unité chrétienne. Alors, on n'accueille pas les non-chrétiens. Et pour Bucer, les catholiques, ceux qui restent fidèles à Rome, ne sont plus vraiment chrétiens. Donc, une tolérance limitée, malgré tout. Mais tous ceux qui ont rompu avec Rome sont accueillis à Strasbourg, même s'ils ne sont pas entièrement d'accord avec Bucer. Alors qu'à Zurich, il y a vraiment une unité doctrinale, Strasbourg est davantage ouverte aux différents courants du protestantisme. Au moins à l'époque de Bucer, puisqu'à sa mort, Strasbourg va devenir beaucoup plus strictement luthérien. Et puis on a des réformes radicales également, notamment ce qu'on appelle l'anabaptisme, des gens qui veulent une foi très simple, là encore, conforme à celle de l'Évangile. Une foi, pour eux, la foi ne peut être acceptée que consciemment. Et donc, on n'est chrétien qu'une fois adulte. Ce qui veut dire que le baptême des enfants n'a aucun sens pour eux. Il n'y a pas le baptême qui est la promesse d'une foi à venir, promesse qui est faite par les parents, parrains, marraines. Non, le baptême va sanctionner une foi qui est déjà là. D'où le surnom qu'on va leur donner d'anabaptisme. Alors, l'anabaptisme apparaît de manière concomitante dans toute une série de villes que vous voyez ici, et vous avez en rouge les principaux points de diffusion de l'anabaptisme. Voilà, je ne peux pas développer davantage. En France, le luthéranisme se diffuse, comme ailleurs, à partir des années 1520, mais la France est surtout marquée par une seconde réforme, celle de Calvin. Donc Jean Calvin, c'est quelqu'un qui est né en Picardie, en 1509, à Noyon, qui fait d'abord des études de droit à Paris, Bourges, Orléans, qui est proche des milieux humanistes réformateurs à Paris, à Orléans, à Bourges également. Sur sa première œuvre, c'est un commentaire d'une œuvre de Sénèque. Donc on est vraiment dans la lignée humaniste. Mais il est de plus en plus attiré par le luthéranisme, luthéranisme qui est connu. Il fait ses études dans les années 1530. Donc les idées de Luther ont pénétré en France, notamment dans les cercles les plus réformateurs, dans ces cercles humanistes qui ne sont pas tous d'accord avec Luther, mais qui le lisent, qui savent ce qu'il veut. Et donc Calvin est touché par cela. Il est connu comme étant actif parmi ces milieux réformateurs, ce qui fait que en 1534, une persécution a lieu contre les milieux réformateurs en France. Il faut dire que ça fait... C'est ce qu'on appelle l'affaire des placards en octobre 1534. Il s'agit en fait d'une provocation de protestants suisses qui affichent sur la porte du roi, la porte de la chambre du roi, et dans d'autres villes de France, une affiche qui attaque très violemment le sens catholique de la messe. Donc ça apparaît vraiment comme une provocation protestante, sans doute dans le but d'éviter un compromis. En France, on avait l'impression que une réforme du type de celle du diocèse de Meaux que je vous avais présentée aurait pu s'imposer. Ces protestants plus radicaux n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas de compromis, mais vraiment une rupture avec Rome. Donc on fait de la provocation. Et le fait d'afficher cela dans différentes villes la même nuit fait penser à une conspiration. Donc la riposte royale est immédiate. Donc persécution contre ceux qui sont catalogué comme réformateur. Calvin, qui est dans ces milieux-là, trouve qu'il est plus prudent de quitter Paris. Il s'en va d'abord à Bâle, puis à Genève, où il est lié au milieu réformateur genevois. Il est chassé, il va à Strasbourg, il est rappelé à Genève, et c'est là qu'il va pouvoir
à partir de 1541 jusqu'à sa mort en 1564, développé sa réforme, donc réforme calviniste. Quelle différence avec la réforme luthérienne, sachant qu'il faut vous l'expliquer en deux ou trois minutes. Je dirais une réforme sans doute plus en rupture que celle de Luther. Plus consciente de la rupture, en tout cas. Luther avait rompu avec Rome. Ce n'était pas son objectif au départ, mais bon, il s'est bien rendu compte qu'il n'y avait plus de réconciliation possible. Mais il y a beaucoup de points qui ne l'intéressaient pas. Fonder une nouvelle église n'avait aucun intérêt pour lui. Une église visible, savoir comment s'organiserait cette église visible. Est-ce qu'il y aurait des pasteurs, des évêques au-dessus d'eux? Est-ce qu'on abolit les évêques ou pas? Qui va diriger les églises? C'est des choses qui n'intéressaient pas Luther et il a donné très peu de consignes sur ce point. Calvin, au contraire, a organisé de manière très soigneuse cette nouvelle église. Alors, c'est parce qu'on est plus tard, c'est aussi, sans doute, parce que Calvin est à la tête d'une ville, Genève. Luther, c'est au sein du Saint-Empire. L'affaire était certainement plus complexe. Et donc, Calvin va définir cette nouvelle église avec quatre types de ministères. Les pasteurs. Pasteurs, c'est ceux qui doivent prêcher et distribuer les sacrements. Les docteurs, c'est ceux qui doivent enseigner. Les anciens, c'est dans chaque communauté les gens chargés de veiller aux bonnes mœurs. C'est ceux qui surveillent les fidèles pour que les mœurs soient respectées. Et enfin les diacres, responsables des pauvres et des malades. Calvin organise la vie de l'Église avec donc des cultes toutes les semaines, dont l'élément le plus important, ce n'est pas la communion comme chez les catholiques, mais le sermon, qui prend une place très importante. En revanche, la communion, ce qu'on appelle la scène dans l'Église réformée, n'est distribuée que quatre fois par an. Calvin aurait voulu plus souvent, puis les autorités genevoises, plutôt moins, il y a un compromis qui fait qu'on en est arrivé à quatre scènes annuelles. Et dans chaque église, donc au niveau de chaque ville ou village, l'organisme dirigeant, c'est le consistoire formé du ou des pasteurs, plusieurs pasteurs quand la ville est importante, un seul généralement, et les anciens. Ce consistoire se réunit toutes les semaines, pour surveiller la doctrine et les mœurs de tous les membres de l'Église. Et on surveille notamment avant chacune des quatre scènes annuelles, pour être sûr qu'on va communier en bon chrétien. Là, les anciens font le tour de tous les fidèles, visitent toutes les familles pour voir comment elles se comportent et si elles connaissent bien la doctrine réformée. Et donc, dans ces églises, on va lutter contre le luxe, contre les spectacles profanes, les blasphèmes, les chansons frivoles, les danses, etc., avec, il faut le dire, un succès mitigé. Des sanctions, certainement, mais quand on regarde de près le comportement, on voit qu'on est obligé de sanctionner jusqu'à l'époque contemporaine. Enfin, aujourd'hui, on est moins sévère dans ce domaine, mais en tout cas, le succès n'a pas été total. Cette réforme calviniste s'est diffusée dans différentes régions. La France n'a jamais réussi à s'imposer totalement en France. Dans certaines régions du Palatinat, de certaines régions d'Allemagne, et notamment le Palatinat, donc au bord du Rhin, à l'est du Rhin, également dans le nord et le nord-est de l'Allemagne. Il s'est imposé également en Écosse, aux Pays-Bas et diffusion relativement importante en Pologne et en Lituanie. au moins au XVIe siècle, puisqu'au cours du XVIIe, il y aura une reconquête catholique dans ces régions. Enfin, une forme particulière de calvinisme s'est diffusée en Angleterre, mais puisque vous avez des cours sur l'histoire de l'Angleterre, je n'insisterai pas là-dessus, disons une forme particulière de calvinisme, parce que là, l'organisation, la doctrine est très proche de celle de Calvin, mais l'organisation de l'Église est assez différente, avec le souverain à la tête de l'Église et un rôle important donné aux évêques, alors que pour Calvin, il n'y a plus d'évêques, on a des anciens, des pasteurs, etc. Alors, pour finir, on peut dire qu'à la suite de toutes ces réformes, on a une nouvelle carte religieuse de l'Europe qui se met en place. Alors, qui n'est pas très facile à dessiner. Bon, j'ai trouvé cela. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Donc, ce qui est en pâle, l'Irlande, la France, l'Espagne, l'Italie, sont des régions qui sont restées très majoritairement catholiques. On a des foyers protestants en Italie, en Espagne, mais qui sont assez vite écrasés. En France, ils peuvent se maintenir. Le protestantisme a été assez important, assez puissant pour résister à la persécution, résister à 30 ans, plus de 30 ans de guerre, les guerres de religion, 1462 et 1498. Et donc, l'édit de Nantes, en 1498, a imposé une tolérance de fait du protestantisme. Les protestants ont une liberté de conscience et peuvent exercer leur culte dans un certain nombre de villes qui sont bien définies par l'édit de Nantes. Ils ont aussi accès à tous les emplois. C'est des mesures qui vont être grignotées peu à peu au cours du XVIIe siècle et supprimées en 1685 quand Louis XIV va révoquer l'édit de Nantes. Et donc vous avez là les régions en orange pour la France qui sont les régions les plus marquées par le protestantisme. C'est ce qu'on appelle généralement le croissant huguenot, puisque ça a grossièrement la forme d'un croissant. En partant de Genève, Lyon, on descend vers le sud, vers Montpellier, et on remonte jusqu'à la Saintonge, le Poitou, avec également un protestantisme relativement important en Normandie, et puis un protestantisme très diffus dans le reste de la France. L'Angleterre et l'Écosse connaissent donc cette forme particulière de protestantisme. Alors, un véritable calvinisme en Écosse, qu'on appelle le presbytérianisme, l'anglicanisme pour le royaume d'Angleterre. Les pays nordiques, Norvège, Suède, Danemark, sachant que la Norvège fait partie à l'époque du Danemark, sont des pays luthériens. Le Saint-Empire est la partie en orange luthérienne, majoritairement, avec dans ces régions du nord ou de l'ouest du Saint-Empire des territoires calvinistes et tout un sud du Saint-Empire qui est resté majoritairement catholique. Voilà, donc une géographie complexe. Comme on le voit ici, vous voyez donc des traits qui indiquent la diffusion des réformes calvinistes pour tout ce qui est en bleu, en noir, anglican pour le vert, luthérien plutôt pour les flèches orange, pour les traits orange. Cette carte n'est pas très précise, ce qui n'est peut-être pas plus mal, parce que si, je vais reprendre simplement deux cas pour finir, la France, je l'ai déjà évoqué, la France est théoriquement catholique, mais on tolère les protestants. Donc, de quelle couleur faut-il la mettre ? Difficile à dire. Pour le Saint-Empire, la paix d'Augsbourg, que j'ai évoquée en 1455, qui termine la guerre, cette guerre qui opposait les princes protestants à l'empereur catholique. Que décide cette paix d'Augsbourg ? Décide que chaque prince pourra choisir sa religion et celle de ses sujets. Alors, choisir dans un choix restreint, en fait, c'est catholique ou luthérien. Il n'y a pas d'autre choix. Mais en 1455, il y a Les anabaptistes sont chassés d'un peu partout. Le calvinisme est encore très peu répandu. Donc, c'est vraiment les deux religions dominantes. Et donc, chaque prince, théoriquement, choisit. Donc, on peut faire une carte politique qui est en même temps une carte religieuse. Si le prince est luthérien, son territoire est luthérien. Si le prince est catholique, son territoire est catholique. Sauf que c'est la théorie. En réalité, on a toute une série de principautés ou de villes où il y a une tolérance de fait. Il y a certaines villes qui instaurent même officiellement la tolérance. C'est souvent pour des raisons économiques, tout simplement. Quand, imaginons un prince luthérien dont la moitié de la population est luthérienne et catholique, il ne va pas mettre dehors la moitié de sa population. Donc il va envoyer des pasteurs pour essayer de convertir les catholiques, mais si ça ne marche pas, il préfère qu'ils restent dans sa principauté plutôt que de partir dans celle d'à côté. Parce que, en fait, c'est très facile de garder sa liberté de conscience dans le Saint-Empire. Il y a un tel émiettement, vous l'avez vu dans la première carte, un tel émiettement politique, qu'on est à peu près sûr de trouver, pas très loin de chez soi, un État dont le prince est de sa religion. Donc, on peut déménager, c'est quand même un sacrifice, hein, mais ce n'est pas un sacrifice total. En déménageant, n'allant pas très loin, on peut vivre selon sa foi. Ce qui fait que beaucoup de pouvoirs politiques ne tiennent pas à cela et préfèrent accorder une certaine tolérance. Même chose quand la minorité est très minoritaire, mais détient un certain nombre de pouvoirs économiques. Si les catholiques du territoire luthérien ou les luthériens du territoire catholique ont les clés du commerce, on ne les embête pas trop, fait semblant d'ignorer leur religion et on leur permet de rester sur place. Et puis très vite, surtout à partir des années 1560, un certain nombre de gens sont atteints par les idées calvinistes et on a même des princes qui se convertissent au calvinisme. Alors ça, c'est un cas de figure qui n'est pas prévu par la paix d'Augsbourg. Et là encore, on préfère fermer les yeux la plupart du temps plutôt que de provoquer un nouveau conflit. L'empereur serait en droit d'interdire à ses princes le calvinisme, mais ce serait au prix sans doute d'une nouvelle guerre religieuse, ce dont personne n'a besoin. Et personne n'a envie, en tout cas. Et donc, on arrive à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, à cette carte d'Europe, avec grossièrement des États catholiques, presque entièrement catholiques, ou en grande majorité catholiques, des États très majoritairement luthériens, Norvège, Suède, Danemark, on peut dire que c'est totalement luthérien. Ah, quelques individus près. Et puis, une mosaïque confessionnelle dans le Saint-Empire. Carte qui va peu à peu se stabiliser et qui va permettre vraiment un développement des différentes confessions protestantes. Et c'est ce que je comptais vous exposer lors de la prochaine séance.
Bravo et merci. Vous avez tenu le pari d'écrire des choses très compliquées dans le temps qui vous était imparti. Donc, nous vous en remercions. C'est pas facile puisqu'on a quand même un peu tangenté tous ces sujets dans les cours précédents. Donc, c'est intéressant. Donc, là, on peut passer à des questions. Si je vais brancher le...
Donc, là, je répète peut-être pour ceux qui n'auront pas... Bien entendu, c'est la question que je n'ai pas abordée là, mais ce sera l'occasion, de la présence question de la présence réelle dans la scène ou dans l'Eucharistie. Donc il faut peut-être rappeler la doctrine traditionnelle. Dans l'Eucharistie, le pain et le vin consacrés par le prêtre sont transformés en corps et sang du Christ, et cette transformation est permanente, c'est-à-dire qu'après la communion, le pain et le vin sont toujours corps et sang du Christ. La substance, c'est-à-dire que sous les... En fait, c'est des termes de théologie scolastique, ça, que Descartes va remettre en... Enfin, ça va poser des problèmes avec la physique de Descartes, justement, vous verrez ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire que sous les apparences du pain et du vin, la substance, on pourrait dire le contenu réel, pour essayer de simplifier beaucoup, c'est devenu le corps et le sang du Christ. Luther est presque d'accord avec cela, à la nuance près que pour lui, il y a coexistence de la substance du pain et du vin et du corps et du sang du Christ, ce qu'on appelle la consubstantiation. Autre nuance, pour lui, cette consubstantiation, donc cette coexistence des deux substances, n'existe qu'au moment où les fidèles sont rassemblés et vont communier. Mais ensuite, une fois que l'assemblée s'est dispersée, c'est à nouveau simplement du pain et du vin. Et donc, on ne peut pas adorer le Saint-Sacrement, ce que font les catholiques. Et ce qu'ils vont faire de plus en plus, justement, en réponse à la négation protestante. Pour Calvin, il n'y a aucune transformation qui se produit. Il faut comprendre, quand le Christ a dit, en montrant le pain et le vin, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il ne faut pas le prendre au sens littéral, il faut le prendre comme une figure. Il dit, le sens commun montre bien que c'est toujours du pain. Et d'ailleurs, par dérision, bien des calvinistes vont donner du pain à manger aux rats, par exemple, ou vont faire boire le vin à toutes sortes d'animaux, pour bien montrer que c'est du pain et du vin, comme des autres. Je ne suis pas sûr que ça prouve grand-chose, d'ailleurs, mais enfin... Bon. Donc, pour lui, il n'y a pas de transformation. Les paroles du Christ, il faut les comprendre. Ceci est la figure de mon corps, la figure de mon sang. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de présence réelle? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour Calvin, quand les fidèles sont rassemblés pour la scène, pour communier, le Christ est présent au milieu d'eux. Mais il n'est pas présent physiquement dans le pain et le vin. C'est l'esprit du Christ qui est présent dans le cœur de chacun. Dieu entre bien en chacun par son esprit, il est là dans son cœur, et c'est possible parce qu'on se rassemble autour du pain et du vin, c'est-à-dire autour de ces figures. Donc pain et le vin sont très importants, mais ce n'est pas dans le pain et le vin qu'est la présence réelle du Christ. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de présence réelle, mais c'est une présence réelle spirituelle. Zwingli, je complique encore, Zwingli, lui, prétend que c'est purement symbolique, qu'il n'y a pas de présence réelle du tout. Que simplement, quand on se réunit pour la scène, on commémore le dernier repas du Christ. Donc c'est très important, c'est ce qui est fondateur pour l'Église. Donc ça a beaucoup d'importance pour lui, mais ça ne fait pas venir, il n'y a pas de présence de Dieu à ce moment-là. Et c'est la doctrine de Zwingli qui va quand même déborder sur le calvinisme postérieur. Toute une partie du calvinisme à partir du XVIIe siècle va être beaucoup plus proche de Zwingli avec une interprétation symbolique que de Calvin qui garde quand même une interprétation qui va au-delà du symbole.
Vous criez fort, mais le micro marche pas.
Alors, faut les reprendre. Non, pas été condamné. La plupart, non, les autres n'ont pas été reprises mais directement, mais c'est plutôt d'autres affirmations qui ne prêtaient pas vraiment à discussion, des choses qui étaient admises par tout le monde. Rappeler l'importance de l'Évangile dans l'Église, c'est pas, l'Église catholique ne le condamne pas non plus. Il y a toute une série d'affirmations comme ça qui sont, je dirais pas œcuméniques avant la lettre, mais qui ne prêtaient pas à discussion et donc qui n'ont pas été particulièrement condamnées. Alors, il y a deux raisons. Il y a la mauvaise raison, c'est le temps. Je ne peux pas en parler. Ensuite, il y a quand même une meilleure raison, à mon avis. C'est que je récuse le terme de pré-réformateur, qui est apparu plus tardivement. Pour une raison, d'abord, le seul qu'on pourrait, à mon avis, appeler pré-réformateur, si vous voulez l'accepter, ce serait guère que Jean Hus, les autres, on parle des Vaudois, par exemple, ont quand même une doctrine assez différente. Les barbes vaudois, c'est-à-dire l'équivalent des prêtres ou des pasteurs, étaient célibataires, par exemple, observaient le célibat. Enfin, il y a quand même des différences importantes. Et quand les Vaudois sont ralliés au protestantisme, ils ont été amenés à changer pas mal de choses dans leur doctrine. Entre Hus et Luther, le rapprochement est beaucoup plus fort d'un point de vue théologique. Si j'aime pas le mot de pré-réformateur, même pour Hus, c'est pour une raison simple, c'est quand on regarde la genèse de la théologie de Luther, il apparaît clairement que Luther ne connaissait pas la théologie de Hus quand il a commencé à développer sa théologie, et c'est par la suite seulement qu'il s'est rendu compte que Hus condamnait également les indulgences, et que sur bien des points, dans sa critique de l'Église, Hus disait des choses pas exactement comme lui, mais très proche de lui. Et donc, c'est a posteriori qu'il a considéré qu'il y avait déjà eu des gens appelant une réforme proche de la sienne. Alors, appeler ça pré-réforme, l'inconvénient du mot pré-réforme, c'est que ça donne l'impression d'un mouvement continu. Les gens qui ont voulu réformer au XIVe siècle, qui ont des continuateurs au 15e, puis des continuateurs au 16e. En fait, il n'y a pas vraiment de continuateur. Il y a eu une rupture. Et puis, au 16e, Luther redécouvre un certain nombre d'intuitions de Hus, plus d'autres, qui fait que, si on reste sur le plan des idées, on peut effectivement voir une certaine continuité, mais il n'y a pas de véritable filiation. Voilà. Cette filiation a été établie, en revanche, par les historiens du protestantisme par la suite, mais c'est vraiment une reconstitution très théorique.
Encore une question ?
Alors, ça a été pas mal...
Une conférence.
Oui. Bon. Deux réponses. La réponse qui est donnée au XVIe siècle... qu'on trouve dans l'histoire ecclésiastique de Théodore de Bèze, donc qui est le continuateur de Calvin à Genève, et qui explique que dans les premiers temps de la Réforme en France, les protestants persécutés devaient se réunir la nuit et qu'en se réunissant la nuit à Tours, ils rencontraient le fantôme du roi Hugues Capet. C'était une légende de l'époque. Que Hugues Capet réapparaissait toutes les nuits. Et donc, par dérision, on aurait appelé ces huguenots, ces protestants se réunissant la nuit, les disciples de Hugues Capet, donc les huguenots. Aujourd'hui, on pense quand même, on estime que l'origine très probable du nom vient de l'allemand ou du suisse Eidgenossen. Qui veut dire qui sont ceux qui se sont unis. Ça désigne une des factions qui se disputent Genève au XVe, XVIe siècle. Et donc, par filiation, les Eidgenossen seraient devenus les Huguenots. C'est sans doute l'étymologie réelle. Mais celle de Hugues est plus jolie.
Alors,
Eidgenossen, c'est E-I-D-G-E-N-O-2-S-E-N.
Donc, en guise de conclusion, on remercie encore M. Krumenacker qui va revenir donc, le 8 janvier. Ça m'a été confirmé, je n'ai pas fait d'erreur pour une fois. Et donc, je rappelle, si vous ne l'avez pas déjà vu sur notre magnifique site internet, que nous allons faire une sortie au printemps au Musée de la Réforme à Genève, bien sûr, et qu'on accompagnera d'une visite de, bien sûr, de Ferney Voltaire, bien sûr. Voilà, oui, donc on fera une sortie d'une journée à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.
Si voilà. Je peux dire un mot sur le Musée international de la Réforme Genève, oui. Je crois que c'est un musée très intéressant, double titre. D'abord, ça apprend beaucoup de choses sur le protestantisme réel, et c'est en même temps une image très intéressante de ce que les protestants genevois veulent dire d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous vous rendrez compte, par rapport à mon cours sur la diversité des réformes, que le protestantisme vu par le Musée international de la Réforme de Genève, c'est en gros le calvinisme genevois qui s'étend en France. Et puis ça s'arrête pratiquement là. Il n'y a pas grand-chose sur le reste, ce qui est une vision quand même assez intéressante. Alors au-delà de cela, il y a une muséographie intéressante et énormément de documents vraiment passionnants.
Bien, merci. Et au mois de janvier.